VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Tout d'abord, la convention du Parti républicain à Cleveland, dans l'Ohio, qui commence aujourd'hui ici aux États-Unis. Après une campagne au cours de laquelle il a déjoué tous les pronostics, le milliardaire Donald Trump s'approche aujourd'hui de son couronnement comme candidat républicain à la présidence, avec le début de la convention où sa femme Melania sera en vedette aujourd'hui. La convention s'ouvre officiellement à 17h temps universel à Cleveland, une ville de 400 000 habitants qui a pris des mesures de sécurité exceptionnelles dans l'attente de milliers de manifestants. Les forces de l'ordre sont particulièrement tendues après les attentats d'Orlando en Floride, de Nice en France, la mort le 7 juillet de 5 policiers à Dallas au Texas et celle dimanche de 3 autres policiers à Baton Rouge en Louisiane, tués par un ancien marine ayant servi en Irak. En attendant le début de la grande messe à Cleveland, Idrissa Sedoudia, l'un de nos envoyés spéciaux, nous fait découvrir ce qu'est une convention.
The convention is a democratic process at work.
Pour ce délégué de l'Iowa que j'ai rencontré ici à Cleveland, la convention, c'est le processus démocratique en action. Il explique qu'il a été élu directement par le parti de son État pour venir appuyer ici son candidat et lutter, je cite, pour notre homme pendant l'automne et, s'est-il repris, dans certains cas, une femme. Historiquement, les délégués n'étaient pas si puissants. Il a fallu l'établissement des primaires au 19e siècle et surtout au début du 20e siècle pour commencer à leur donner, à ces délégués, le pouvoir effectif de sélection des candidats de leur parti respectif à la présidence. À noter que la Constitution américaine ne dicte pas aux partis combien ils doivent être et encore moins comment ils doivent mener leurs affaires internes. Autrefois, c'était la machine du parti ou encore les barons du parti qui choisissaient les candidats à la présidence et à la vice-présidence et faisaient entériner leur choix par les délégués. L'expression que l'on utilisait en anglais pour ce processus était le « smoke-filled room », littéralement « la salle remplie de fumée ». Et je ne suis pas sûr qu'on parlait ici des cigares que l'on fumait, plutôt l'opacité du processus. Idrissa Sedoudia à Cleveland.
Maintenant, la tragédie du tireur qui a tué 3 policiers et blessé 3 autres hier dans la ville de Baton Rouge en Louisiane. Le tueur a été identifié comme un certain Gavin Long ayant appartenu au corps des Marines. Le président Barack Obama a condamné les meurtres en disant que de telles attaques se produisent beaucoup trop souvent. Il a appelé les Américains à éviter la rhétorique de la division après ce dernier acte de violence. Le chef de l'exécutif américain a qualifié le crime d'attaque lâche sur les fonctionnaires, sur l'état de droit et sur la société civile. Pour comprendre l'atmosphère après cette nouvelle tragédie, Idriss Fall a joué à Baton Rouge Abdoulaye Sy, d'origine mauritanienne.
Moi, je suis là depuis bientôt une dizaine d'années, mais je peux dire que avant que cet incident malheureux qui a eu lieu, tout se passait très bien. Mais depuis que ce jeune homme qui vendait des CD, qui a été abattu par 2 policiers blancs devant une boutique, a ravivé les tensions de communauté entre la police d'un côté et la communauté noire de l'autre côté. Donc, je peux vous dire quand même qu'il y a une peur, tout est aux arrêts, les gens ne sortent plus comme avant, les marches continuent toujours. Sur la route qu'on appelle Airline, il y a toujours des manifestations, c'est ce qu'on appelle le Black Lives Matter, avec les autres mouvements noirs qui sont là, et avec aussi d'autres citoyens blancs qui manifestent chaque jour. Il y a toujours cette tension qui est là, visible. Donc, je crois qu'il y a peut-être aussi un manque de confiance ou peut-être aussi que les gens en ont un peu marre de ce qu'on dit, ce shooting, cette agressivité de la police contre les citoyens.
Abdoulaye Sy, un résident de Baton Rouge, en Louisiane, d'origine mauritanienne.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'Afrique maintenant, deuxième jour du 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda. Les participants ont décidé aujourd'hui d'ajourner à l'année prochaine l'élection du successeur de la Sud-Africaine Nkosi Sazana Dlamini Zuma à la présidence de la commission de l'UA. Les raisons de cette décision avec le journaliste malien Moussa Boli qui est sur place à Kigali.
Aucun candidat n'a eu les 2/3 des votants pour prétendre succéder à Mme Zuma. Et le président de l'Union africaine, le président Idriss Déby Itno, en a tiré tous les enseignements en ajournant les élections qui sont probablement programmé pour 2017. En attendant, la commission actuelle va continuer à gérer les affaires.
Moussa Boly, au micro de Kadiatou Traoré. À noter que les trois candidats en lice étaient Agapitomba Mokoui de Guinée équatoriale, Pelomini Vincent Moïtoy du Botswana et Specioza Wandira Kazibwe de l'Ouganda. Autre sujet au programme du sommet de Kigali, la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Le roi Mohamed VI du Maroc a annoncé hier que le moment était arrivé pour que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de l'UA. Le royaume chérifi avait quitté l'organisation panafricaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine doit être validé par un vote au sein de la Commission de l'Union africaine. Les électeurs de Sao Tomé et Principe ont élu dimanche dès le premier tour le candidat du parti au pouvoir à la présidence de la République, Evaristo Carvalho, candidat soutenu par le parti du Premier ministre Patrice Trovoada, a obtenu 50,1% des voix contre 24,8% pour son rival, le président sortant Manuel Pinto da Costa. En République démocratique du Congo, deux opposants ont été condamnés à 15 ans de prison par un tribunal de Lubumbashi à la suite d'une bagarre pour le contrôle d'un parking pour des taxis-motos. Plus de précision avec Idriss Fall.
Olivier Kabbala et Eustache Mutombo ont été condamnés à 15 ans d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Maître Alexandre Ngoy, leur avocat commis d'office, a dénoncé un procès hautement politique et a trouvé suspect que ses clients étaient seuls au banc des accusés. Le samedi, une dispute avait opposé les deux hommes à leur ancien camarade de la majorité présidentielle sur la gestion d'un parking de taxi-moto dans le fief de l'opposant Gabriel Kiungu Wa Kumwanza, leader de l'UNAFEC. La dispute s'est transformée en bataille rangée, il y a eu des blessés légers. Ces deux militants de l'UNAFEC ont été donc arrêtés, jugés et condamnés pour tentative de meurtre selon le greffe du tribunal. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, est membre du G7, groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition et qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. L'opposition accuse M. Joseph Kabila de manœuvrer pour rester au pouvoir à la fin de son mandat en décembre.
Le sida reste la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique, a dénoncé aujourd'hui l'UNICEF au premier jour de la conférence internationale sur le sida en Afrique du Sud, soulignant que la bataille contre la maladie n'était pas terminée. La ville sud-africaine de Durban accueille de lundi à vendredi la 21e conférence internationale sur le sida, destinée à relancer les efforts contre l'épidémie qui a déjà fait plus de 30 millions de morts. Quelques 18 000 scientifiques, praticiens, militants, juristes et bailleurs de fonds, mais aussi des personnalités comme le prince Harry et l'actrice sud-africaine Charlize Theron y sont attendus. Et puis en Turquie, les forces de sécurité turques ont effectué tôt aujourd'hui de nouveaux coups de filet dans l'armée, poursuivant le grand ménage entrepris par le président Recep Tayyip Erdogan, qui inquiète de plus en plus la communauté internationale. Anna Bilson.
Au total, quelques 6000 militaires ont déjà été placés en garde à vue et près de 3000 mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de juges et de procureurs après la tentative de coup d'État qui a officiellement fait au moins 290 morts, dont plus de 100 putschistes. La communauté internationale a mis en garde la Turquie contre la tentation d'une répression généralisée. Le président américain Barack Obama a ainsi rappelé le besoin vital que toutes les parties concernées agissent dans le cadre de l'état de droit. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a souligné que ce coup d'État avorté n'était pas un chèque en blanc au président Erdogan pour procéder à des purges. Même son de cloche à Bruxelles, où Federica Mogherini, qui dirige la diplomatie européenne, a souligné que le respect de l'état de droit et de la démocratie était le meilleur moyen d'affronter les difficultés que vit la Turquie.
C'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.